Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Cette fois, on va parler de la vie nocturne de Montréal, puisque la ville de Montréal a un projet, il y a eu des projets pilotes, mais on va finalement aller de l'avant pour permettre, dans certains coins de Montréal, que les bars soient ouverts 24 heures, puis des salles de spectacle également. Luc Rabouin est avec nous. C'est le maire du Plateau et le président du comité exécutif de la ville. Monsieur Rabouin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je veux comprendre où vous en êtes, là. La proposition, c'est quoi exactement?
Donc, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, on a réalisé plus d'une vingtaine de projets pilotes dans la dernière année pour tester comment c'était possible de faire des activités pendant toute la nuit, qui dure toute la nuit. C'était quoi les conditions qu'il fallait mettre en place? Ça allait-tu bien se passer à la sortie le matin? Ça allait-tu être l'enfer, le bordel, etc.? Et ça s'est vraiment bien passé. Donc là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que là, on veut avoir une politique, c'est-à-dire qu'on va formaliser les conditions pour permettre d'avoir des activités pendant 24 heures. Mais la politique va beaucoup plus loin que ça. La politique, elle veut s'assurer que Montréal demeure une ville festive, une ville de vie nocturne. Puis la vie nocturne, c'est pas entre 3 heures et 6 heures du matin. Ça commence parce qu'on va souper au restaurant, on va prendre un verre après, on va voir un spectacle. Donc la politique met plusieurs éléments pour s'assurer qu'on demeure une ville reconnue pour sa vie nocturne.
OK, mais là, je reviens à cette idée là de permettre à des bars de rester ouverts là, plus tard que 3 heures du matin, par exemple. Là. Dans un premier temps, vous souhaitez que ça se passe dans combien d'arrondissements ou dans combien de quartiers de Montréal?
Oui, donc il y a deux éléments sur le 24 heures. On veut créer des zones de vitalité nocturne, dont un premier quartier 24 heures au centre-ville pour aller tester... Au-delà d'un mode événement dans un établissement, comment ça se passe à l'échelle d'un secteur? Un projet pilote dans le centre-ville. On veut aussi désigner des établissements. Donc, il y a des lieux de diffusion culturelle qui pourraient être d'emblée certifiés établissements 24 heures, c'est-à-dire qu'on considère qu'ils ont les bonnes conditions pour être capables de faire des activités pendant toute la nuit, puis qu'on pense que ça ne générera pas plein de problèmes avec leur voisinage. Donc, ça, c'est deux éléments majeurs dans la politique. Le troisième élément qui est majeur aussi, c'est la réglementation sur le bruit. On le voit, là, on le voit régulièrement. Il y a des gens qui ont des plaintes de voisins, qui menacent leurs activités. Donc, nous, on cherche le bon équilibre pour s'assurer que les établissements culturels, nos salles de spectacle, puissent continuer à vivre, parce qu'on en a besoin à Montréal, c'est partie de notre identité, et que les voisins puissent avoir une bonne qualité de vie. Il faut qu'on modifie notre règlement, donc c'est un des éléments majeurs de la politique.
OK, mais je suis pas sûr que je comprends, là. Prenons le cas du centre-ville de Montréal. Mettons que les propriétaires de bars au centre-ville décident, moi, je suis propriétaire de bar, j'ouvrirai 24 heures. Est-ce que je suis dans la zone, c'est automatique, ou c'est du cas par cas, par établissement, par salle de spectacle?
Okay. Actuellement, c'est par événement. Et ce qu'on dit, c'est que si tu es dans le quartier 24 heures, tu vas avoir d'emblée le droit d'ouvrir pendant 24 heures. Là, juste pour qu'on se comprenne bien, là, il n'y a aucun établissement qui va être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il n'y a personne qui a les moyens de faire ça. Mais c'est juste que quand ils vont vouloir faire des événements qui durent toute la nuit, ça va être beaucoup plus simple d'avoir les autorisations pour le faire. En ce moment, ça prend une résolution du conseil d'arrondissement. Ensuite, ça prend une résolution du conseil municipal. Donc là, on veut simplifier les choses parce qu'on a une bonne expérience là avec les projets pilotes qu'on a faits sur les conditions qu'il faut mettre en place pour que ça marche.
À partir des projets pilotes que vous avez faits, là, de façon générale, les bars ouvraient quoi? Jeudi, vendredi, samedi, 24 heures? Ou en tout cas jusqu'à 6 heures le matin, mettons?
C'est un événement, une nuit. C'est vraiment 24 heures. Les événements qui ont eu lieu, là, c'est vraiment une nuit. Il y a eu un événement dans le quartier latin pendant la rentrée des étudiants à l'UQAM. Il y a eu des événements dans des établissements culturels. Il y en a eu à la SAT. Donc, il y en a dans plusieurs lieux, mais généralement, c'est un événement 24 heures.
OK, mais un propriétaire, là, j'ai vu ça ailleurs dans le monde, là, des propriétaires d'établissements qui disent les fins de semaine, on est ouvert après les heures. Est-ce qu'il pourrait le faire? De façon systématique, sans événement?
S'il est dans un quartier 24 heures, oui. Puis s'il est un établissement désigné 24 heures, oui.
OK. L'autre question. Y a-t-il un enjeu avec les permis d'alcool? C'est-à-dire que je comprends la décision de la ville pour les, en fait, désigner des zones, puis ce qui est des plaintes concernant le bruit. Mais est-ce que la régie des permis d'alcool a statué là-dessus?
La ville a le pouvoir de prolonger les heures d'ouverture, incluant le permis d'alcool. Donc, nous, on fait déjà ça. Là, puis pendant tous les événements qu'on a fait dans la dernière année, c'est la ville qui autorise la prolongation de vente d'alcool de 3h à 6h du matin.
OK, la régie des permis d'alcool n'a rien à voir là-dedans.
La régie des permis d'alcool gère l'octroi des permis d'alcool. S'il y a un nombre de plaintes important, la régie peut suspendre les permis, elle peut faire toutes sortes de mesures, mais sur les heures, c'est la ville qui a le pouvoir.
OK. Parlons du bruit des plaintes. On a vu des cas, on peut penser au fameux, ben c'est dans votre coin d'ailleurs, le Théâtre de la Tulipe, le voisin qui se plaint, là c'est une salle de spectacle. D'autres endroits, je voyais ce matin des établissements qui ferment, c'est souvent une personne qui va multiplier les plaintes là pour justement faire fermer l'établissement. Comment vous allez faire en sorte que le citoyen soit pas frustré par le bruit, que les plaintes, on puisse en faire au besoin, puis en même temps, pas tuer ceux dont c'est le métier puis qui ouvrent des établissements?
Ben, c'est exactement ça notre défi, c'est vraiment de concilier les deux là. De trouver, notre règlement, il fonctionne pas en ce moment. Donc, il faut qu'on soit capable de l'adapter. On a des lieux phares de la culture montréalais qui sont menacés de fermeture par une ou deux personnes. Ça marche pas. En même temps, on veut s'assurer qu'on protège la qualité de vie dans le voisinage. Donc, il faut trouver ce bon équilibre-là. C'est pour ça qu'on veut qu'on revoie notre réglementation. Mais trouver ce bon équilibre-là, c'est pas facile, parce que si c'était facile, on l'aurait déjà fait.
OK, mais exemple, là, on pense à des quartiers. Mme Plante a parlé du quartier francophone, du quartier latin, là, d'en faire un des éléments phares de la vie nocturne de Montréal. On peut penser au village, vous parlez du centre-ville également. Est-ce que les citoyens qui habitent là vont être consultés pour savoir si ça les intéresse?
Absolument. C'est ça la prochaine étape de la politique. Dans le fond, nous, on a travaillé beaucoup avec les acteurs de la vie nocturne dans les deux dernières années. Là, le 13 février, on dévoile la politique de la vie nocturne et on lance une consultation publique. Donc déjà, les gens vont pouvoir donner leur avis. On veut que les Montréalais, Montréalaises participent à la consultation. Puis quand on va désigner des zones de vitalité nocturne, ça va se faire avec les arrondissements après consultation de la population.
OK. Puis si les citoyens n'en veulent pas, ils n'en auront pas. Si les citoyens du village n'en veulent pas, ils n'en auront pas.
Bien, c'est ça qui va se discuter dans la consultation. C'est-tu les citoyens du village? C'est-tu quelques-uns? C'est pour ça qu'on fait des exercices de consultation, là, pour avoir le pouls de la population, puis voir c'est-tu acceptable ou c'est pas acceptable. Si les gens n'en veulent pas, il n'y en aura pas.
OK. C'est parce que, M. Rabouin, pour être bien franc avec vous, je me méfie de ces opérations de consultation publique où les dés sont pipés d'avance, puis on s'arrange des fois pour changer de salle à la dernière minute pour faire taire des gens qui seraient contre le projet. Des fois, là, puis là, je sais que l'office municipal a, disons, une fin d'année difficile, là, mais mettons que je suis un peu cynique et j'ai des doutes.
Ben, écoutez, les consultations sont essentielles. Moi, des histoires de changer de salle à la dernière minute, je ne sais pas de quoi vous parlez.
Je vous parle dans le sud-ouest de Montréal pour l'endroit où les gens peuvent aller se piquer.
Ah bon, écoutez, je ne sais pas l'exemple.
Ben, on avait convoqué les citoyens dans une salle, puis supposément que c'était trop petit, puis on a changé de place à la dernière minute. C'est la façon facile et classique d'éliminer des citoyens qui peuvent être dérangeants ou d'étirer des assemblées pour qu'on reste entre nous pour faire passer le projet qu'on veut. C'est ça qui
va... Je pense que c'est des situations vraiment exceptionnelles. En général, quand on fait nos séances d'information publique, c'est annoncé d'avance, les gens peuvent venir, ils peuvent donner leur avis. Évidemment, c'est une consultation en bout de ligne, là. C'est les élus qui décident, c'est eux qui sont imputables, puis ils doivent expliquer leurs décisions aux citoyens. Mais c'est notre responsabilité d'entendre leurs avis, puis d'entendre aussi l'avis des propriétaires de salles de spectacle, de bars, etc. Puis nous, ben notre job, c'est de trouver les bons équilibres, le bon équilibre pour s'assurer que les activités de la vie nocturne sont maintenues, ça fait partie de l'identité de Montréal, puis que la quiétude dans le voisinage est préservée.
En terminant, est-ce que le projet pilote a généré des plaintes de citoyens sur le bruit?
Très, très peu. Pas plus que d'habitude quand il y a des événements qui ferment à 3 heures. Puis c'était ça qu'on voulait aller tester. Il y avait beaucoup de sceptiques, là, notamment dans mes collègues, sur faire durer des événements toute la nuit avec prolongation de fermée d'alcool. Beaucoup pensaient que ça allait être vraiment le bordel. Et ça n'a pas été le cas. Puis même le SPVM fait une évaluation très positive, alors qu'eux aussi avaient des réticences au départ. Ça s'est bien passé parce qu'on a exigé des conditions en place pour s'assurer que ça se passe bien.
OK. Merci, M. Rabouin. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir. Luc Rabouin, le maire du plateau Mont-Royal et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Les tambours parce que on connaît maintenant le successeur de Louis-José Houde pour l'animation du gala de la disque.
Et le nouvel animateur de la disque est super content!
Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Pierre-Yves Roy Desmarais qui va succéder à Louis-José Houde pour cette 46e édition du gala de la disque. Il est avec nous ce matin. Salut Pierre-Yves!
Bonjour Catherine.
Pierre-Yves, t'as fait une vidéo où tu tentes de répondre aux questions, aux futures questions des journalistes. On va écouter un extrait et après, on va te poser les vraies questions.
Première question. Es-tu nerveux de passer après Louis-José?
Ben, c'est un honneur, mais j'aime mieux pas me comparer puis me concentrer sur ce que moi j'ai à faire.
Oui. Est-ce que c'est angoissant de chausser les souliers de Louis-José?
Ben, sincèrement, c'est pas si pire. Je me dis que de toute manière, la soirée est pas à propos de moi, elle est à propos de notre musique. Oui.
Ça doit être stressant de penser après Louis-José.
Oui, mais ça commence, là.
Alors, la grande question, mon cher Pierre-Yves, comment ça se passe après, justement, cette annonce que tu vas animer le gala de la disque et toutes les comparaisons qu'on va faire?
Ben, écoute, je peux pas contrôler les comparaisons. Je vais me concentrer sur essayer d'avoir du fun de mon côté, là. Tu sais, moi, je suis un grand amoureux de ce gala-là, puis tout ça, fait que d'en faire partie, ça serait bien niaiseux de ma part de pas en profiter en ayant peur des comparaisons, là.
Et comment tu vois ton rôle d'animateur? Parce qu'on t'a vu au dernier Bye Bye, bon, t'es un scripteur, humoriste, animateur, chanteur. Ça va être quoi ta couleur que tu vas amener au gala de la disque?
Ben, ma couleur, c'est que comment la décrire, je sais pas, mais je pense que les gens qui m'ont vu sur scène peuvent s'imaginer un peu l'approche que je vais pouvoir avoir, mais c'est une fête musicale, une fête rassembleuse, la disque, fait que je vais essayer d'être cette espèce de liant-là, dans le fond. C'est un peu ça mon but.
On sait qu'il y a des discussions sur l'avenir des galas. On a vu, par exemple, des galas où l'intérêt est moins là, les chicanes pour les Gémeaux, le gala artiste qui a disparu. Comment on fait pour garder en vie un gala pour que l'industrie s'y retrouve puis que le public aussi soit pas perdu?
Ben, en tout cas, la disque le fait bien jusqu'à présent. C'est pas mal le gala qui est le plus épargné par ces critiques-là puis par ce déclin-là que vous décrivez. J'ai comme l'impression que le fait que la musique permette un rassemblement de plusieurs générations ensemble, de plusieurs styles, puis peut-être que le fait aussi que les musiciens sont tous pauvres, peut-être qu'il y a une solidarité qui est plus grande aussi. En tout cas, j'ai comme l'impression...
C'est plus facile qu'un gala des Oliviers où les humoristes sont tous riches.
Ben, exactement.
Voilà.
Et où les humoristes ont de la difficulté à rire des blagues des autres humoristes aussi.
Ben, il y a quelque chose, en tout cas, de plus de bonne foi dans le ton du gala de la disque, j'ai l'impression, effectivement. Ouais.
Et là, ta préparation, parce qu'on sait à quel point ben ça fait déjà des mois, des semaines que tu es au courant. Comment tu te prépares pour ce marathon du gala de la disque?
J'écris. C'est pas mal juste ça que j'ai à faire. Dans le fond, je me concentre sur la portion qui m'est attribuée là, vraiment les jokes. Fait que je me concentre là-dessus pour l'instant.
Quelle musique t'écoutes en particulier? Si on va fouiller dans ton ordinateur, ta playlist, là, qu'est-ce qu'on va retrouver?
Ben, vous allez retrouver des Louanges, vous allez retrouver du Lou-Adrian Cassidy, du Hubert Lenoir, du Ariane Roy, du Command de bord, du Petit Béliveau. Je suis un curieux qui aime ça, aller voir des shows aussi, fait que c'est sûr que vous allez voir énormément de musique en français de ma génération. Fait que c'est pas mal ça que j'écoute ces temps-ci, je vous dirais, Paul.
Et le péché mignon, c'est quoi, là, l'artiste ou la toune qu'on n'ose pas dire publiquement qu'on aime?
Et encore moins Paul Arcand.
Non, ça, on peut le dire, ça.
Ben, je suis un grand fan du vieux Céline, là. Tu sais, je pense qu'effectivement, que c'est de moins en moins tabou, là, tu sais, de dire qu'on aime ces affaires-là. Là. C'est pas un vrai péché mignon. Mais les vieux succès classiques viennent me chercher là aussi.
Mais Céline Dion, genre l'époque Incognito?
Oui, absolument. c'est la meilleure époque pour danser, j'ai l'impression.
Ben écoute, Pierre-Yves Roy Desmarais, on va surveiller ça évidemment avec grand plaisir. Ben bravo hein, tout d'abord parce que c'est quand même des chaussures très très grosses à porter.
T'as pas besoin d'y rappeler.
Oui, mais je sais, mais on va y rappeler pareil, coudonc, là, mais ça vient de sortir. Puis il sait à quel point on est critique, hein. Tu sais, quand c'est les galas, surtout le gala de la disque. Puis évidemment, on te souhaite le meilleur pour ce 46e gala de la disque. Merci d'avoir été avec nous.
C'est très gentil, merci à vous.
Salut. Il n'a pas besoin de dire ça, il le sait.
Ah oui, mais
ça se peut-tu?
Juste un petit stress supplémentaire.
Ben oui.
Non, mais il paraît que c'est bon. Ça aide à se concentrer après puis à vouloir.
En tout cas, il a posé des questions qu'il n'y avait pas sur sa liste.
Mais c'est bon,
on
ça.
On est allé ailleurs un petit
oui,
peu.
Oui, oui. Bon. Non, t'as bien, il a bien répondu, artiste québécois d'abord.
Oui, oui.
Il était préparé.
J'ai des doutes. Il doit avoir un petit peu d'anglais quelque part là-dedans,
ben,
c'est sûr.
Ben oui, un brin.
D'ailleurs, il y a quelques années, je pense que c'est dans la presse, il a publié la liste. Qu'est-ce que vous avez sur vos listes musicales? Peux-tu dire qu'il y avait beaucoup d'anglo?
Oui.
Il y avait des artistes franco, là, tu sais,
oui.
Qui...
Ben, stop. Oui.
Ben, c'est correct aussi.
Oh, oui.
Faut s'ouvrir sur le monde. Tout en appréciant nos produits locaux.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Bon, on parle de plus en plus, et on en jasait avec Frédéric tantôt, sur les réseaux sociaux de ces injections de vitamines, une espèce de cocktail par intraveineuse. Il y en a qui font la promotion de ça, et pour toutes sortes de raisons, la libido, le manque de sommeil, la perte de poids, les lendemains, comme on dit, de gueule de bois. Et il y a un nombre quand même important de cliniques qui l'offrent. Je sais qu'il y en a au moins une sur la Rive-Sud, à Montréal aussi, qui propose ces injections. Et hier, des ordres professionnels ont pris la parole en disant « ça suffit, là, c'est du grand n'importe quoi ». On pense à l'ordre des infirmières et infirmiers, des diététistes, nutritionnistes. Et avec nous ce matin, pour en parler, le président du Collège des médecins, Dr. Maurice Godreau. Dr. Godreau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Et également le président de l'Ordre des pharmaciens, Jean-François Desgagnés. Monsieur Desgagnés, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Docteur Godreau, je commence avec vous, là. Pour obtenir les injections, là, c'est en vente libre, ça prend une ordonnance de quelqu'un. Comment ça marche?
En principe, ça prend une ordonnance de quelqu'un. Mais c'est pas, on peut pas se procurer ça dans des pharmacies du Québec pour le moment, en tout cas. Oui, ça prend une ordonnance de quelqu'un. C'est pour ça que on a fait ça les quatre heures ensemble. C'est à la fois pour protéger le public et les informer du fait que ça pourrait être dangereux pour eux. Et deuxièmement, pour rappeler les obligations déontologiques à nos membres respectifs, dans le cas du Collège des médecins et les médecins, bien sûr. Donc, protéger le public, c'est toujours ça notre première mission. Donc, on l'a fait d'abord pour ça, mais également pour rappeler aux médecins et aux autres professionnels de la santé qu'il fallait y aller selon des preuves scientifiques et selon la science. Et au moment où on se parle, il n'y a pas d'étude, aucune étude scientifique qui a démontré que scientifiquement, ça pouvait être efficace, l'injection de ces produits-là par intraveineuse.
OK, mais je comprends qu'il y a comme des médecins qui signent des ordonnances collectives et les gens se présentent, par exemple, pour se faire des injections?
Il se peut. Ça, je n'ai pas d'exemple. Pour le moment, on ne le sait pas encore. Mais il se peut que ce soit ça. Et c'est beaucoup préventif, notre affaire, pour le moment. Là, il n'y a pas eu, je ne sais pas, à l'ordre des pharmaciens, je ne pense pas qu'il y en ait eu non plus. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas rapporté à la direction des enquêtes chez nous.
OK. Monsieur Desgagnés, là, ces vitamines, là, les gens se disent, OK, mais on peut aller à la pharmacie, on en trouve des vitamines et tout ça. C'est quoi la différence entre ce qu'il y a en tablette et ces cocktails-là qu'on nous propose?
Ben, écoutez, on comprend que dans certaines situations bien précises, là, on va parler de cas de dénutrition ou de gens qui sont pas capables de s'alimenter par la bouche, on va utiliser les antibiotiques, les vitamines en intraveineuse, en injection. Mais c'est des cas extrêmement rares. Vous savez, quand on décide d'avoir recours ou on a besoin d'une injection intraveineuse, surtout, ça doit être fait avec des protocoles très, très précis, très sévères, très encadrés, faits par des professionnels. Une injection, ça demeure... Il y a des risques à ça, là. Donc, c'est pour ça que on doit se limiter à dans des situations où c'est absolument nécessaire.
OK, mais là, on ne connaît pas la provenance de ces vitamines-là. On ne sait pas de quelle façon ça a été préparé.
Ben, pour l'instant, là, ce qu'on peut comprendre, c'est que les sacs, là, les espèces, comme votre chroniqueur disait tout à l'heure, les espèces de poches fluo, là, il semble que ça ne soit pas préparé ici au Québec par des pharmaciens. Est-ce que c'est fait en Ontario? Est-ce que c'est... Donc, c'est très difficile. C'est tout le flou également qu'on dénonce. C'est tout le flou qui encadre ces pratiques-là, où les cliniques se procurent les vitamines, qui les prépare. C'est extrêmement... On se questionne beaucoup là-dessus. Là.
Docteur Godreau, je reviens à la notion là, d'ordonnance collective. Ça veut dire que des clients patients là, peuvent obtenir ou en tout cas bénéficier de l'ordonnance sans même avoir été vus par un médecin?
Oui, ça, on peut pas faire ça. Ça aussi, ça fait partie de notre rappel. Qu'il fallait absolument que les professionnels doivent examiner leurs patients et qu'on ne peut pas utiliser une ordonnance collective dans ce cas-là. Il y a des cas au Québec où on peut utiliser des ordonnances collectives, mais absolument pas pour cette question-là. Et quand M. Desgagnés parlait tout à l'heure que ça peut, c'est extrêmement rare, ça se fait en milieu hospitalier quand les gens sont dénutris au point où il faut utiliser... des injections intraveineuses de vitamine ça, ça se fait en milieu hospitalier à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est très, 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 c'est exceptionnel.
OK, mais là, c'est devenu tendance. Là c'est devenu une mode, puis je veux augmenter ma libido, je vais aller me faire faire une injection qui, d'ailleurs, coûte, dit-on, 200-250 $. Pour d'autres raisons, perdre du poids. Ce que vous nous dites, c'est que la science montre que ça marche pas, là.
Il n'y a aucune étude qui démontre de valeur à recevoir de tels traitements.
Puis sur...
En l'absence d'une carence réelle. La carence réelle, on en a parlé tout à l'heure, c'est exceptionnel, ça se fait en milieu hospitalier.
Et c'est rare, vous l'avez dit, là.
Ah oui, tout à fait. Il faut faire attention. C'est beaucoup, beaucoup pédagogique, c'est beaucoup, beaucoup en prévention par rapport au public et également un rappel, comme je le disais tout à l'heure à nos membres, faites attention à tout cela. Et ce n'est pas parce que ça peut faire du bien, peut-être que ça peut faire du bien, je ne sais pas, moi, mais il n'y a pas d'études qui le démontrent. Et ce n'est pas parce que certaines vedettes, influenceurs, sportifs en font la promotion que c'est nécessairement bon pour tout le monde.
OK. Monsieur Desgagnés, j'ai reçu quelques messages ce matin, quelques courriels de gens qui se sont fait injecter, là, j'ai pas le détail des vitamines, mais qui disent que ça leur a fait du bien, qu'en période d'hiver, plus sombre, plus gris, ben, ça donne comme un boost, là. Je vais prendre cette expression-là.
Ben, écoutez, c'est difficile de porter un jugement, puis moi, je suis pas dans le jugement de l'opinion de ces personnes-là. Mais moi, un peu comme le docteur Godreau vient de le dire, nous sommes des scientifiques, nous nous basons exclusivement sur la science. Écoutez, si les gens disent que ça leur fait du bien, bien leur en face, mais objectivement, puis pour la population en général, moi, ce que je dois vous dire ce matin, c'est qu'il n'y a rien dans la science qui appuie le recours à ces thérapies.
Qui fait les injections? Savez-vous? Monsieur Desgagnés?
On ne sait pas. Il y a sûrement des infirmières, j'imagine, ou des infirmiers dans ces cliniques-là qui procèdent aux injections. Parce que moi j'ai déjà eu des intraveineuses, puis ça prend, c'est des techniques, là. Donc j'imagine que c'est pas n'importe qui peut s'improviser de donner des injections par intraveineuse demain matin. Donc j'imagine qu'il y a des infirmiers, des infirmières dans ces cliniques-là, d'où le fait que justement notre collègue M. Mathieu, le président de l'Ordre des infirmiers infirmières du Québec, a fait le même communiqué que nous par rapport à ses membres au niveau des obligations déontologiques. Mais on peut pas s'improviser à faire des intraveineuses du jour au lendemain.
Mais là, tu ne prends même pas avec un cathéter puis dire je vais aller au début du mois puis je retourne le mois prochain.
Non.
Il peut y avoir des infections, vous le savez très bien.
Mais c'est d'abord un, c'est rare que des ordres professionnels, il y en a quatre là, sortent publiquement pour faire cette mise en garde de, je voulais dire, d'un problème qui a l'air en croissance et qui en même temps, cette pratique-là ou cette façon d'aller chercher des vitamines là, c'est soutenu par des influenceurs, ça se ramasse sur les réseaux sociaux. On voit ça ici, mais on a vu ça ailleurs là, aux États-Unis par exemple beaucoup. Comment je dirais? Est-ce que je comprends le danger de l'infection, mais de recevoir des antibiotiques, pas des antibiotiques, mais des vitamines, est-ce qu'il y a un danger relié à ça? Dr. Gaudreau?
Il n'y a pas de danger relié à ça nécessairement, si ce n'est la possibilité d'infection. Mais il n'y a pas d'étude qui vient nous démontrer que ça peut donner une valeur ajoutée, ça peut donner une valeur positive. Il n'y en a pas non plus qui viennent nous démontrer que ça peut être nocif pour la santé.
OK, donc on ne sait pas ce que ça vaut.
C'est ça.
Mais on sait que ça coûte cher.
Il semble.
je pense que oui, ça coûte cher. C'est-à-dire que des fois, tu dis il y a des produits placebo, peut-être que ça donne un résultat, puis que, mais dans ce cas-là, vous levez le drapeau puis vous faites bien de le faire. Dr. Gaudreau, je profite de votre présence. La décision d'Ottawa de repousser dans le temps l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des enjeux de santé mentale chroniques et lourds. Vous pensez quoi de ce report?
Ben, nous, notre position là-dessus était très claire. On est allé d'ailleurs témoigner là, il y a quelques semaines à Ottawa à ce sujet-là. Et la posture du collège, c'était d'aller de l'avant puis de poursuivre avec des critères bien établis, bien encadrés. Et donc, oui, je comprends que la société canadienne n'est pas prête à aller aussi loin. Mais nous, notre posture, c'est que nous devrions envisager sérieusement pour ces patients qui ont des problèmes de santé mentale, comme les autres patients qui ont des problèmes de santé physique, d'aller de l'avant. Et on est déçus de cela.
Merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous. Dr. Maurel Gaudreau, qui est le président du Collège des médecins du Québec. Jean-François Desgagnés, le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Et là, évidemment, plus on en parle, plus ça amène de réactions. C'est une mise en garde faite par des ordres professionnels. Il y a des enjeux quand on parle d'injection par intraveineuse. Puis deuxièmement, il n'y a rien qui prouve l'efficacité. Je ne dis pas que c'est dans votre tête, ça ne donne pas des résultats. Mais méfiez-vous des influenceurs qui sont souvent payés pour faire la promotion de ces produits-là qu'on présente comme étant extraordinaires. Mais t'sais, des vitamines, ça peut être bon, mais vous êtes surtout pas de cette façon-là.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
On va commencer ce matin avec notre ami Luc Dupont pour parler du phénomène des cartes de hockey. Je croyais que c'était complètement disparu.
Moi aussi.
Mais visiblement, il y a encore des gens qui sont prêts à payer cher pour des cartes.
Ben, souviens-toi, récemment, ce jeune garçon du Saguenay-Lac-Saint-Jean là, qui avait découvert une carte de Lewis Hamilton qui l'a vendue à fort prix. Et là, on apprend qu'il y a une famille en Saskatchewan qui a découvert une boîte non ouverte qui contient des milliers de cartes de hockey de 1979. Ça, c'est l'année recrue de Wayne Gretzky. C'est ce qui crée, entre autres, l'engouement autour de cette boîte qui va être vendue à l'encan. On a déjà dépassé la barre du million de dollars pour mettre la main sur cette boîte. On ignore le nombre exact de cartes recrues de Gretzky qu'il y aurait dans cette boîte, mais disons que ça a créé là une nouvelle folie autour des cartes de hockey. Et pour parler de ce phénomène que je croyais moi aussi disparu, on va aller retrouver Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa. Monsieur Dupont, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Comme ça, les cartes de hockey, c'est loin d'être mort, d'après ce qu'on peut voir.
Ouais, visiblement, ça marche encore. Et l'histoire est absolument rocambolesque de A à Z dans ce cas-ci. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui, à un moment donné, semble-t-il, se souvient soudainement qu'il y aurait une grosse caisse à quelque part dans le sous-sol. Et là, on va jeter un petit coup d'œil. On s'aperçoit qu'à l'intérieur de ça, il y a 16 boîtes, 48 paquets. Initialement, d'ailleurs, quand on va inscrire ce magot-là ou ce trésor-là, sur Internet, on prétend qu'il y a 10 cartes par paquet, donc 7684. Et il y a quelqu'un qui dit « je pense que vous vous êtes trompé. » Dans le temps, OPG mettait 14 cartes par paquet, donc c'est pas 7684 qu'il y a, mais 10 752 cartes. Si ça arrêtait là, ce serait déjà assez fort. L'autre truc, c'est qu'en commençant à fouiller là-dedans, évidemment, très rapidement, on se dit « ben c'est peut-être la saison 80-81 ». Mais non, c'est la saison 79-80, je le précise parce que sur l'emballage, c'est inscrit 1980. On va demander à une firme indépendante, tenez-vous bien comment elle s'appelle, d'authentifier tout ça. Elle s'appelle le Baseball Card Exchange, donc ça ne s'invente pas non plus. C'est le baseball qui va confirmer que le hockey a raison dans ce cas-ci. Et pour déplacer les cartes jusqu'à Dallas, on va engager des gardiens de sécurité qui vont surveiller la grosse caisse en question en se disant qu'il y a probablement un magot là-dedans, d'autant plus que des cartes de Wayne Gretzky, en parfait état, il en existe deux sur la planète, et que la dernière fois qu'on en a vendu une en 2021, elle s'est vendue 3,75 millions de dollars.
Mais si ça demeure encore populaire, est-ce que le cercle de collectionneurs a, lui, rétréci ou rapetissé quand on regarde les prix que les gens sont prêts à payer pour ça, là?
Oui, dans ce cas-ci, assurément, il y a même des gens qui pensent que ça, c'est fort probablement que ça peut se ramasser au Japon. Et ce serait quelqu'un qui achèterait la caisse, mais qui jamais ne l'ouvrirait. Parce qu'évidemment, vous devinez que il y a toutes
sortes
de...
Pour la revendre plus tard, c'est ça?
Ben oui, ou sinon, il y a toutes sortes d'approches possibles, parce que on a déjà aussi vendu des alors, à l'intérieur de la caisse, je rappelle qu'il y a 16 boîtes. On a déjà aussi certains marchés où on a vendu des boîtes. Et dans un cas en particulier, on a vendu ça plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, on se dit, ben dans ce cas-ci, statistiquement, il y a des gens qui disent, ben il y aurait entre 25 et 27 cartes de Wayne Gretzky. Alors, faites l'équation. Je vous ai dit que la dernière carte en parfait état avait été vendue 3,75 millions de dollars. Donc, s'il y en avait 25, est-ce que vous ouvrez en même temps les paquets? Parce que ça se peut aussi que les cartes soient en mauvais état. Parce qu'à l'époque, OPG, qui a été la première firme d'ailleurs de cartes de hockey, je le précise, à traduire en français les commentaires. Je vous dis ça parce que dans mon jeune temps, je me souviens des commentaires des joueurs de hockey. C'était toujours très drôle. Genre, César Maniago aime beaucoup jouer au golf l'été. J'avais toujours des commentaires très bizarres. Je trouvais ça amusant. Mais dans ce cas-ci, ça dépend de toute une série de facteurs. On nous dit que la caisse a été gardée dans un endroit sûr, sécure, pas humide, l'encre, qu'est-ce
que... Mais ça a l'air que c'est dans un paquet de gomme, on parle de ça, là, c'est...
Oui, alors ça, c'est une autre histoire amusante. Je précise d'ailleurs qu'au début du 20e siècle, les entreprises qui étaient dans ce marché-là étaient dans le marché de la gomme initialement. Donc, trompons-nous pas, c'est ça qui est drôle, c'est qu'au début, OPG vendait de la gomme. Et pour rendre la gomme attrayante, ils ont dit à un moment donné, on va mettre des cartes de joueurs de sport, donc de hockey, de baseball, etc. Et assez rapidement, les gens se sont mis à dire, attends un petit peu, c'est pas votre gomme dure que je veux acheter, c'est les cartes de hockey. Et donc, pour pas perdre le marché, OPG a dit, ben voici ce qu'on va faire. On va effectivement vendre plutôt les cartes de hockey, mais on va continuer à mettre la gomme dure pas bonne, là. Tous les gens, en fait, j'allais dire tous les enfants, mais tous les adultes qui ont encore un cœur d'enfant se souviennent de cette gomme-là dure, pas bonne.
Je me souviens, j'étais jeune, OK, puis on achetait des cartes de hockey, là, puis on attendait à chaque fois l'arrivée de la boîte au dépanneur du coin, puis bon. Puis là, à un moment donné, tu grandis, tu jettes ça à la poubelle parce que tu dis, c'est pas vrai que m'a traîné ça, là. Puis là, t'apprends quelques années plus tard que t'as jeté peut-être une fortune parce que t'avais une carte de Guy Lafleur puis que t'avais une carte de... Puis là, avec mes gars, je suis retourné dans des endroits où il y avait des expositions de cartes. J'ai acheté des cartes. On dirait que c'est cyclique pour le grand public, là, l'intérêt pour les cartes de hockey, par exemple.
Oui, c'est absolument cyclique et je prétendrais qu'ils ont fait toute une série d'erreurs. À un moment donné, vous aviez plusieurs compagnies qui se partageaient le marché, tantôt le marché canadien, le marché américain également, des signatures, certaines années aussi des collections de deux entreprises qui ne travaillent pas ensemble, mais qui se ressemblent étrangement. Mais je pense que le gros problème, c'est qu'à un moment donné, on a inondé le marché de cartes en prétendant qu'elles étaient rares. Mais évidemment, quand on imprime des cartes à hauteur de millions d'exemplaires, malheureusement, elles ne prendront probablement jamais de valeur. Alors oui, effectivement, c'est absolument cyclique, c'est fascinant à cet égard-là.
Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que à l'époque, là, tu étais avec tes chums, tu m'as donné un babéole, puis tu vas me donner.
Ben oui.
Mais là, aujourd'hui, là, tout semble passer par des entreprises d'encan, d'enchères, et c'est comme ça qu'on négocie, là.
Oui, on a commercialisé beaucoup tout ça avec des collections aussi spéciales, momentanées. On est loin au fond de l'époque où, par exemple, je reviens à OPG, les expos arrivent et c'est comme ça que ça s'est passé. Et on dit, ben effectivement, il y a un nouveau marché, le marché québécois. Puis là aussi, il faut aussi traduire nos cartes. C'était très bon enfant à l'époque. Moi, j'ai souvenir de ça comme si c'était hier. C'était un moment magique, ouvrir le paquet là, de cartes d'hockey avec la petite gomme à côté. Il y a peut-être juste les gommes bazooka là, qui pouvaient égaler ça à certains égards avec la fameuse histoire. Mais c'était beaucoup plus bon enfant, et soudainement, c'est devenu un truc plutôt destiné aux adultes. Et on s'est mis aussi à vendre des caisses. Moi, j'ai pas souvenir et des boîtes. Moi, j'ai pas souvenir dans mon jeune temps qu'on me permettait potentiellement d'acheter une caisse. Et c'est pour ça que dans ce cas-ci, d'avoir une caisse qui est intacte, on estime que c'est unique. Et c'est probablement la seule ou la dernière qui existerait à cet égard-là. Et le prix, je suis allé jeter un petit coup d'œil tout juste avant d'entrer en entrevue. Au moment où on se parle, l'encan est rendu à 1 375 000 $, mais c'est quelque chose qui vaut, à mon avis, facilement autour de 4 millions de $. En présumant, évidemment, que les cartes, on parlait de la gomme, en présumant que les cartes n'ont pas été abîmées par la gomme, parce que ça aussi, ça arrivait souvent, l'humidité, la température également.
Dans mon temps, il ne fallait pas que les coins soient pliés. Là, c'était...
Non, c'est, puis, c'était déprimant quand tu te ramassais avec quatre cartes de Don Harry.
Oui.
Tu dis, ça vaut rien que de m'en faire avec ça. Personne n'en veut.
Terry Harper.
Aussi. Merci, monsieur Dubon.
Merci beaucoup.
Écoute, juste à dire, il y a madame, je ne dirais pas son nom, là, qui m'écrit en disant, je vous confirme que les cartes de hockey ne sont jamais disparues. Mon mari les échange, les vend, c'est très populaire, à mon grand malheur, puisqu'on trouve des cartes de hockey partout. Je pense que le monsieur est pas mal, comme on dit, accro.
Mais
aux cartes.
Mais t'as encore des salons où on invite des athlètes à venir faire des signatures, puis des, puis t'as quelques commerces également là, qui font encore ça, là, quelques magasins qui font le commerce des cartes. Mais moi, je vais t'avouer que je suis plus là-dedans.
Ah
là,
ben non,
puis,
mais
mettez ça dans une boîte à souliers, là. Puis
oui, mais moi, j'achetais pas une boîte, là, pas une caisse, mais je pouvais acheter une boîte.
Ouais, ok, ouais.
Avec un, je sais pas combien de paquets, une vingtaine ou je sais pas une trentaine, là. Là, t'achetais ça, puis là, t'ouvrais tout ça, là. T'en sais gomme.
C'est vrai que t'avais quatre fois le même...
La même affaire.
Hey, vous me rappelez de bons souvenirs. J'en avais plein comme ça dans une boîte à chaussures. Mais je les ai signés quand j'étais jeune pour pas me les faire voler. Et on parle de cartes, là, d'il y a longtemps. J'avais même Gordie Howe avec les Whalers.
Puis t'as mis ton nom dessus.
J'ai écrit mon nom avec ma belle écriture d'enfant. Marc B. Pas question de me faire voler ça. Aujourd'hui, ça vaut plus rien.
C'est sûr. Hey, moi, j'en ai jeté. Imagine. Quand j'ai vu les mêmes cartes dans des expositions qui valaient 25$, 15$, pas cave à peu près.
Écoute.
Hey, je l'ai jeté, peux-tu te dire?
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Pourquoi ça ce matin? Ben, parce qu'il y a un documentaire sur Netflix qui vous amène dans les coulisses de la création de cette toune unique au monde, là. We Are The World.
Et on connaît évidemment tout le monde cette chanson et vous allez l'avoir en tête toute la journée aussi.
C'est sûr.
Tellement que c'est un grand, grand classique et les coulisses de la création de la chanson sont vraiment passionnante. Moi, j'ai regardé ce documentaire présenté sur Netflix. C'est extraordinairement bien fait parce que, en fait, on est vraiment à l'intérieur de comment on a enregistré lors de cette fameuse nuit de janvier cette chanson avec 47 artistes. Et comme on voulait aussi immortaliser le moment, évidemment, faire un vidéoclip, il y avait des caméras, des micros. Donc, les gens, on les entend aussi, on voit leurs réflexions, on voit les gros plans, ce qu'on n'avait peut-être pas vu nécessairement dans les dernières années.
Puis on voit que les gens vieillissent. Hey, Bruce Springsteen.
Oui. Oui, parce que plusieurs commentent également leur expérience, dont Cyndi Lauper, Lionel Richie et aussi Bruce Springsteen. Et en fait, faut se rappeler, c'est une idée du chanteur Harry Belafonte qui, lui, voulait recréer un peu ce qui avait été fait en Angleterre avec Band-Aid. Vous vous souvenez de la chanson aussi Do They Know It's Christmas? On voulait en faire une version américaine pour aider la famine en Afrique. D'où est né le regroupement USA for Africa. Il est allé voir un gérant d'artistes ou aussi un bailleur de fonds avec un carnet d'adresses hyper bien garni qui s'appelle Ken Gracken. Et lui a décidé de mener ça vraiment de son côté, à appeler plein d'artistes et à commencer par Michael Jackson et Lionel Richie pour dire, ben, est-ce que ça vous tente d'écrire une chanson? Notamment, est-ce que vous êtes capable de faire une chanson qui pourrait être porteuse? Les deux se sont rencontrés. Lionel Richie est allé chez Michael Jackson. Finalement, réussissent à faire une chanson. Il y a le serpent de Michael Jackson qui s'échappe. Lionel Richie a eu la peur de sa vie.
Il y a le chimpanzé qui s'engueule avec un oiseau, là, je pense.
Exactement. Mais la démo de cette chanson, je vais vous faire entendre Michael Jackson, qui a une voix très, très claire, qui s'y pratique en attendant les invités. Et c'est magnifique.
We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
This is the most remarkable voice I have ever heard in my life.
We are the world. We are the children.
Et pour réaliser cette chanson, on retient les services du grand Quincy Jones. La date choisie pour l'enregistrement, c'est tout de suite après les American Music Awards, qu'anime d'ailleurs Lionel Richie. On trouve un studio tout près où les artistes vont tout de suite, après le gala, aller enregistrer toute la nuit. Et là, ça se fait en secret. Faut dire qu'on veut pas ébruiter parce qu'il y a beaucoup d'artistes au même endroit. On veut pas avoir de paparazzi, on veut pas vraiment avoir de journalistes non plus. Une fois que le démo est enregistré, on envoie le tout par cassette. Je me rappelais même plus que les cassettes existaient, mais effectivement, on le fait par la poste. Avec, en omettant l'adresse, mais ça s'est fait à la main. Les artistes ou même les agents recevaient la cassette pour se pratiquer un petit peu. Et là, on parle quand même d'artistes exceptionnels. Je dis une quarantaine d'artistes de Stevie Wonder, Ray Charles, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Kenny Rogers, Bette Midler. Et c'est, en fait, les artistes du moment dans les années 80 qui fonctionnaient bien. Et là, il y a des gens qui se sont demandé, mais pourquoi Madonna n'était pas là? Elle n'a pas été invitée. On a choisi plutôt Cyndi Lauper à sa place. Et Prince avait été invité. On a même demandé à sa blonde de l'époque, Sheila He, de participer à l'événement en se disant, ben, si sa blonde est là, il va peut-être venir faire un tour en studio. Finalement, il a refusé toute la nuit. Et c'est pour ça que Prince n'a pas participé à We Are The World. Et au moment de l'enregistrement, Lionel Richie a eu la très, très bonne idée d'écrire juste en haut de la porte du studio, laissez vos égos à la porte. Faut comprendre qu'avec tous ces artistes, mettons qu'il y en a qui ont peut-être la mèche un petit peu plus courte, qui prennent pas toujours les critiques non plus. Et
mais pourquoi c'est lui ou elle qui a tel moment dans la chanson? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi j'ai juste deux phrases à dire? Pourquoi? Non, mais c'est sûr, là. Il y en a qui sont pas nécessairement reposants.
Parce qu'il y a la portion groupe, puis au départ, ça va très, très bien, mais après, on choisit justement les refrains. Pourquoi moi, je suis avec telle personne? Pourquoi on me plaçait avec un artiste plutôt qu'un autre? Et là, le temps commence à manquer aussi. Il faut se rappeler qu'on est la nuit, qu'on a un moment, quelques heures seulement. Donc, à un moment donné, Stevie Wonder commence à vouloir faire un petit peu d'improvisation, commence même à dire, ah, ben, on pourrait mettre du Swahili dans la chanson. Ça fait pas l'affaire. Ça commence à chicaner un peu. Et là, arrivent les parties solo. Il y en a qui ont plus de problèmes que d'autres. Vous avez le chanteur de jazz et de blues, Al Jarreau, qui lui a pris un petit verre. Il n'est pas capable, pantoute, de chanter. C'est vraiment compliqué. Et arrive Bob Dylan, qui lui, depuis le départ, on le voit dans les images, il n'a pas l'air vraiment à sa place.
C'est pas son beat.
C'est pas son genre du tout. Même au niveau de la voix aussi, c'est un immense artiste, mais c'est pas un grand chanteur. Et je vais vous faire entendre les débuts quand il commence à vouloir interpréter la chanson. Avec, en fait, sa partie, ça sort pas. Et c'est avec l'aide, finalement, de Stevie Wonder qu'il va réussir à chanter.
Okay, you have to run that back a lot of times.
There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
Et il a réussi parce que Stevie Wonder l'a pris à part, puis il a commencé à l'imiter. Il dit, comme ça que tu dois la chanter. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et par la suite, ben, c'est Bruce Springsteen. Lui, il vient de terminer sa tournée Born in the USA. Il a plus de voix. Il est 6 heures du matin. Mais là, il donne tout. Il a une attitude extraordinaire. Et l'enregistrement se fait de cette façon.
Saving our own life. It's true, we'll make a better day. Just you and me.
My voice was not great, but I sung as best as I could.
We are the world.
on parle d'un artiste exceptionnel, c'est Bruce Springsteen. Parce que lui, il a pas chialé.
Il était là jusqu'à
la fin.
Oui, 7h le matin.
Exact.
Là.
Et l'enregistrement s'est terminé aux alentours de 8h du matin. La chanson, par la suite, les semaines suivantes, est sortie. Ça a récolté 80 millions de dollars pour l'époque. On parle d'à peu près aujourd'hui 160 millions. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est quand même de voir des artistes qui se réunissent pour une bonne cause. Oui, on voit à quel point ça peut changer les choses parce que ça l'a vraiment aidé. Mais aussi de voir des leaders naturels qui ont été là, comme Lionel Richie, qui a été dans l'ombre pendant de nombreuses années. On le trouvait quétaine à l'époque. On disait, ah ouais, we are the world, on n'est pas certain. Mais quand on revoit ces images-là, ben, c'est lui qui a été un des grands instigateurs aussi.
Est-ce qu'on peut réécouter un petit moment de cette chanson quand même? Comme tu dis, on va l'avoir dans la tête toute la journée.
Effectivement, mais c'est vraiment un beau documentaire à voir sur Netflix. Le titre, exactement, c'est la plus belle, The Greatest Night in Pop, en version anglaise. Ouais.
Merci beaucoup.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.